Europe 1. Vous écoutez Europe 1, il est 13h.
Europe 1 13h.
Céline Géraud.
Bonjour à tous et bienvenue à bord. Europe 1 13h, c'est votre rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Dans ce journal, nouvelle nuit de violence en Nouvelle-Calédonie. Au moins 5 personnes sont mortes, dont 2 gendarmes. L'armée a été déployée, Gérald Darmanin l'annonce. L'État reprendra le contrôle. Analyse et réaction sur la situation dans quelques instants. 2 jours après l'attaque d'un convoi pénitentiaire dans l'Europe, le fugitif Mohamed Amra et ses complices sont toujours activement recherchés. L'opération prise en morte, elle, se poursuit. L'actualité, c'est aussi Citroën qui rappelle des centaines de milliers de voitures C3 et DS3 pour un problème d'airbag. Explication dans ce journal. Et puis, une épopée romaine dans une Amérique en pleine décadence. Mégalopolis, le nouveau film de Francis Ford Coppola. C'est l'événement aujourd'hui au Festival de Cannes. Rendez-vous à la fin de ce journal. Bonjour Géraldine.
Bonjour Amand. Céline.
La tendance météo pour l'après-midi.
Le temps est toujours instable. Les averses et les orages se multiplient sur une grande partie du pays. Les températures varient entre 16 et 20 degrés en général. Elles atteignent 23 degrés en Corse. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal.
Europe 1.
Et on ouvre donc cette Europe 1 13h avec cette troisième nuit de violence en Nouvelle-Calédonie. Un gendarme a été tué ce matin à la suite d'un tir accidentel, a annoncé Gérald Darmanin, ce qui porte à 5, dont 2 gendarmes. Le nombre de morts dans l'archipel depuis le début des émeutes lundi, alors que l'armée vient d'être déployée dans l'île. Quelles sont les dernières informations, Sébastien Lebelzik, alors que la nuit vient de tomber à Nouméa?
Oui, c'est une quatrième nuit qui commence sous couvre-feu et désormais donc sous le régime de l'état d'urgence, décrété hier soir par le gouvernement. Alors le déploiement policier et militaire a permis une relative accalmie ces dernières heures, très relative cependant, puisque sur les images qui circulent sur les réseaux sociaux, on voit toujours ces volutes de fumée qui recouvrent Nouméa avec des incendies de commerce et d'habitations. Les dégâts sont déjà estimés à plus de 150 millions d'euros. Écoutez le témoignage de cette habitante de Nouméa, elle était en direct ce matin sur l'antenne d'Europe 1 avec Pascal Praud.
Vous ne pouvez pas imaginer la peur au ventre que j'ai si on arrive à sortir vivant, monsieur, parce que je parle de sortir vivant. Ils ont bousillé notre île. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de concessionnaire. Il n'y a plus de pharmacie. Il n'y a plus d'école. Les lycées de nos enfants sont brûlés. Les collèges de nos enfants sont brûlés.
Voilà, tout est brûlé et ça ressemble à une zone de guerre avec d'un côté des barrages installés par les émeutiers et de l'autre des barricades de fortune installées cette fois par des organisations de quartier réunies en groupes d'autodéfense pour se protéger. On redoute maintenant des pénuries de médicaments et de nourriture, raison pour laquelle un pont aérien est organisé entre l'Hexagone et l'archipel calédonien pour assurer le ravitaillement.
Sébastien Lebelzik pour Europe 1. Alors face à cette situation qui reste très tendue, un nouveau conseil de défense est sur le point de se terminer à l'Élysée et le Premier ministre devrait prendre la parole dans les minutes qui arrivent. En attendant, Arthur Delaborde, quels sont les moyens qui sont déployés par l'État pour rétablir l'ordre?
Eh bien, 1700 policiers et gendarmes sont actuellement déployés en Nouvelle-Calédonie. Gérald Darmanin promet que ce chiffre va passer à 2700 d'ici demain soir. C'est donc un millier d'hommes qui est en train d'arriver sur place en renfort, notamment des unités spécialisées dans le maintien de l'ordre de haute intensité. L'armée est également mobilisée, mais son rôle se limite à la sécurisation des points stratégiques, notamment les ports et l'aéroport de Nouméa. Autrement dit, les militaires ne participent pas à des missions de police, comme l'a précisé Gérald Darmanin sur France 2.
Il n'y aura pas l'armée dans les rues de Nouvelle-Calédonie. C'est une question de maintien de l'ordre, c'est pas une question d'invasion militaire. Parfois, les armées nous aident. Par exemple, c'est eux qui ont évacué le gendarme de 22 ans qui a pris une balle dans la tête. Mais c'est pas le travail des armées que de pacifier l'archipel de Nouvelle-Calédonie. C'est le travail des policiers et des gendarmes. Ils le font et ils le font très bien.
Enfin, pour rétablir l'ordre, le blocage de TikTok sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie a notamment été décidé. C'est la première fois qu'une telle mesure est prise dans l'Union européenne. Les autorités ne disent pas pourquoi l'application chinoise est le seul réseau social à être ciblé. C'est certainement parce qu'il circulait de très nombreux messages de haine et d'appels à la violence ces dernières heures.
Merci Arthur Delaborde. Alors l'Azerbaïdjan est impliqué dans les émeutes en cours à Nouméa, c'est ce qu'affirme Gérald Darmanin ce matin. La France qui soupçonne ce pays du Caucase d'alimenter en partie ce climat insurrectionnel. Alors l'Azerbaïdjan a beau démentir toute intervention, c'est bien l'ingérence de Bakou qui est caractérisée par les services de renseignement français. Et Bakou ne serait pas la seule à la manœuvre. D'autres pays, la Turquie, la Russie et la Chine, sont également soupçonnés d'instrumentaliser les indépendantistes calédoniens. L'enquête de William Molinier.
Ce n'est plus un secret pour la DGSI qui voit derrière les indépendantistes kanaks la main de Bakou ou d'Ankara. Le 1er mars dernier, des représentants du peuple autochtone se sont rendus à une conférence internationale sur la décolonisation dans la capitale turque. Selon une source du renseignement intérieur, les frais de transport de la délégation kanak ont été payés par les services secrets de l'Azerbaïdjan. À la fin de cette rencontre, une lettre ouverte était adressée à Emmanuel Macron dénonçant, je cite, les dérives colonialistes de la France. Ce nouvel épisode s'inscrit dans une série de tentatives de déstabilisation. À l'automne dernier, une opération menée par Bakou contre la visite du ministre français des armées à Nouméa avait été déjouée par le contre-espionnage. Signe, selon une source du renseignement, que des alliances de circonstances entre services secrets se mettent en place pour désigner un ennemi commun, la France. Selon une autre source, Bakou et Ankara seraient en fait piloté par Moscou et Pékin afin d'ouvrir des fronts périphériques comme en Nouvelle-Calédonie, sorte de contre-feu avec un objectif: affaiblir l'État français.
L'enquête de William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Cette crise qui explose à 17 000 km de la capitale a bousculé tous les agendas, y compris celui d'Emmanuel Macron. Jacques Seret, cette crise sécuritaire vient percuter véritablement les flancs du président.
Oui, ce n'était pas du tout ce qu'avait prévu Emmanuel Macron pour cette semaine. Une semaine qui a débuté, je vous le rappelle, lundi avec le sommet Choose France à Versailles et ce record d'investissement étranger de l'ordre de 15 milliards d'euros. Le président avait pour ambition de capitaliser sur cette séquence. Son point fort, l'économie, devait suivre deux déplacements, l'un à Fécamp hier pour inaugurer un parc éolien en mer, l'autre ce matin à la centrale nucléaire de Flamanville. Pour une fois, ça partait bien, l'âge dépité inconscient. Ministériel. Les communications du président et du premier ministre étaient alignées, les annonces étaient bien réparties, on reprenait le fil de notre récit. Un récit face au mur de l'insécurité, le point faible d'Emmanuel Macron, l'attaque meurtrière d'un fourgon pénitentiaire dans l'heure mardi, puis l'embrasement de la Nouvelle-Calédonie ont eu raison de l'agenda présidentiel. Et c'est loin de faire les affaires du chef de l'État. À moins de 4 semaines des européennes, impossible dans ce contexte de défendre un bilan et de vendre un projet.
Jacques Seret du service politique d'Europe 1 et dès 13h20 avec Paul Melun et Jean-Claude Dacier, nous décrypterons cette crise en Nouvelle-Calédonie. À quoi faut-il s'attendre? Le gouvernement a-t-il raison de mettre la pression sur les indépendantistes en leur promettant de suspendre le texte voté à l'Assemblée en cas d'accord sur un nouveau statut du territoire? Venez réagir.
En appelant dès maintenant le 01 80 20 39 21, le numéro est non surtaxé. Vous écoutez Europe 1, il est 13h07.
13h, 14h, Céline Géraud.
13h07 dans cette Europe 1, 13h, deux jours après l'attaque d'un convoi pénitentiaire qui a causé la mort de deux agents. 350 enquêteurs sont mobilisés pour retrouver le détenu en fuite, Mohamed Amra et ses complices. Et dans le même temps, la mobilisation des agents pénitentiaires se poursuit partout en France. Certains regrettent les failles qu'il peut y avoir dans les prisons. Reportage à la maison d'arrêt de Lille-Sequedin dans le Nord.
Un grillage vert de 9 mètres de haut, des barbelés partout autour de la prison. Objectif, dissuader d'une évasion bien sûr, mais cela reste assez inefficace pour les jets de colis. Notre prison, c'est un peu une passoire, déplore Benoît Normand. C'est le secrétaire local UFAP UNSA Justice à la maison d'arrêt de Lille-Sequedin.
Les gens, ils arrivent sur le talus, ils viennent là, ils découpent. Vous avez un premier grillage et hop, après ils balancent les colis et là vous avez les cours de promenade. Grosso merdo, il y en a pour 10 minutes, hein, entre le moment où ils arrivent et le moment où ils repartent. C'est un peu du gruyère ici.
Jusqu'à 100 colis envoyés par jour. À l'intérieur de ces paquets, drogue et téléphone emballés par des éponges pour amortir la chute. Il faudrait un mur, insistent les agents pénitentiaires. Plus de moyens, plus de fermeté.
Les prisons françaises sont trop laxistes.
Yannick Lasserre, du syndicat Force Ouvrière Justice.
Si on avait beaucoup plus de ressources humaines, on pourrait opérer beaucoup plus de fouilles. Mais aujourd'hui, on n'en a pas les moyens. Et ça, la population pénale, elle en a totalement connaissance.
Les collègues se plaignent aussi de ne pas assez s'exercer au tir, conclut-il. Très peu de formation également pour apprendre les techniques collectives d'intervention. Sequedin, Maximilien Carlier, Europe 1.
Voilà, de Maximilien Carlier qu'on retrouvera tout à l'heure à 13h30 avec ses témoignages édifiants. 100 colis jetés dans cette prison par jour, ça paraît dingue. On reviendra donc sur ces innombrables failles dans les prisons dénoncées par les gardiens. Et si vous voulez réagir, appelez-nous.
Au 01 80 20 39 21, 13h09 sur Europe 1, vous écoutez le journal de Céline Géraud.
Et je vous parle maintenant de ce vent de panique qui souffle depuis quelques heures chez Stellantis. Le géant automobile vient de lancer un rappel massif de 600 véhicules Citroën. Alors des C3, des DS3, un peu partout dans le monde. Et en France, cela concerne 250 000 véhicules. Barthélémy Philippe, quelle est la cause de cette colossale campagne de rappel?
Eh bien Céline, c'est un problème d'airbag qui peut survenir sur ces voitures produites entre 2009 et 2019 et qui ne sont plus commercialisées à ce jour. Selon un porte-parole de la marque, le gaz de ces airbags se détériore avec les années, en particulier dans les régions chaudes. Le déclenchement du coussin peut entraîner des projections de particules avec un danger potentiellement mortel. Citroën a envoyé un courrier à l'ensemble des propriétaires pour qu'ils cessent immédiatement d'utiliser leur véhicule. Yves Cara est porte-parole de Mobilité Club France.
C'est vrai que le courrier est alarmant, mais en même temps, il est rassurant. Ça prouve qu'au moins, ils ont pris le problème vraiment très au sérieux, un problème d'airbag. En tout cas, ça prouve qu'il y a un suivi incroyable de tous les composants qui sont dans une voiture, y compris le gaz hein, qui déclenche l'airbag. C'est de la sécurité. Et puis, on peut se féliciter du suivi de la qualité de ces voitures et de tous les composants qu'il y a dedans. Hein.
En attendant de remplacer ces airbags, Citroën promet de prêter des véhicules. En France, environ 180 000 Citroën C3 et 65 000 DS3 sont rappelés. Si vous pensez que votre véhicule est concerné, rendez-vous sur le site gouvernemental Rappel Conso et surtout n'hésitez pas à contacter votre concessionnaire.
Les explications de Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. L'actualité de ce jeudi 16 mai, c'est aussi cette ultime round de négociations entre l'assurance maladie et les médecins libéraux. Alors au cœur des discussions sur cette nouvelle convention, le tarif de la consultation. L'assurance maladie a validé le prix de 30 euros, mais en échange d'une série de contreparties qui ne font pas l'unanimité dans le corps médical, Camille Moreau.
Pour obtenir la consultation chez le généraliste à 30 euros, il va falloir que les médecins s'engagent collectivement à en faire plus. L'assurance maladie leur demande par exemple de réduire leurs prescriptions d'antibiotiques de 10% d'ici 2025 ou encore de prescrire moins d'arrêts maladie. Mais le plus inacceptable pour les médecins traitants, c'est qu'on leur demande aussi de soigner davantage de patients à l'avenir. C'est impossible, dénonce Jérôme Marty, généraliste et président du syndicat de médecins UFML.
Augmenter régulièrement sa patientèle de plus de 2% chaque année, alors même qu'on a déjà le plus grand mal à faire face à la demande de soins et on ne voit pas comment on pourrait rajouter des patients aux patients à moins de ne donner que 5 à 10 minutes maximum par patient, ce qui n'est pas compatible avec une médecine de qualité.
Et ce médecin enfonce le clou, la consultation à 30 euros ne serait de toute façon qu'un rattrapage de l'inflation. Il rappelle qu'en moyenne, le tarif de la consultation chez le généraliste en Europe est de 45 euros.
Camille Moreau du service Société d'Europe 1.
Il est 13h12 sur Europe 1 et comme chaque jour dans ce journal, Céline, on fait un petit détour par la croisette avec aujourd'hui ce film événement.
Oui, Francis Ford Coppola, un monstre du cinéma qui va monter les marches ce soir. 5 Oscars et 2 Palmes d'Or au compteur. Le réalisateur présente Mégalopolis, le film de sa vie en compétition. Et c'est sans doute le film le plus attendu de cette 77e édition, Marie Jiquel.
Voilà 40 années que Francis Ford Coppola peaufine ce long métrage Mégalopolis, son film testamentaire, celui dont il rêve depuis l'âge de 8 ans. 300 scripts raturés et 110 millions de dollars tout droit sortis de sa poche. Et Coppola nous présente enfin Mégalopolis, porté par l'acteur Adam Driver. Time stop! Dans cette dystopie, Coppola ose le parallèle entre le déclin de l'Empire américain et celui de la Rome antique. Mégalopolis s'affirme déjà comme l'expérience de cette 77e édition, selon Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes.
Et je trouve admirable que cet homme de 85 ans se comporte comme un cinéaste indépendant, comme un artiste qui veut venir montrer son travail ici à Cannes.
Alors pour achever ce projet d'une vie, Coppola, qui est resté très secret, confie tout de même s'être inspiré de nombreux artistes et dans cette liste des noms que l'on connaît bien, Voltaire, Rousseau, Molière et Beaumarchais, Mégalopolis, une énorme machine prête à engloutir la croisette aujourd'hui.
Marie Jiquel, envoyée spéciale d'Europe 1 au Festival de Cannes, 13h14. Si vous êtes fondu de foot, vous avez sans doute coché sur votre agenda ces dates, 14 juin, 14 juillet, les dates de l'Euro bien sûr, ça se passe en Allemagne. Et le premier temps fort, eh bien, c'est la liste de Didier Deschamps qui sera dévoilée ce soir. Cyril de la Morinerie, alors il y a des évidences, mais le sélectionneur des Bleus va devoir composer car il y a des blessés.
Oui, autour du capitaine Kylian Mbappé, d'Antoine Griezmann et du vétéran Olivier Giroud qui va disputer son dernier Euro, il y a d'autres incontournables comme le milieu Adrien Rabiot et le défenseur Benjamin Pavard. En revanche, le sélectionneur va devoir se passer du précieux Lucas Hernandez, forfait. mais surtout le milieu Aurélien Tchouaméni, pilier de l'équipe de France, est incertain en raison d'une blessure, tout comme le Munichois Kingsley Coman. Malgré ses incertitudes, Didier Deschamps ne navigue pas à vue, assure Robert Pires au micro d'Europe 1.
Peut-être qu'il a des doutes sur 2-3 joueurs maximum, mais son groupe, il l'a déjà. Je crois qu'aujourd'hui, on parle de l'équipe de France, on a des grands joueurs, on a un réservoir qui est fabuleux, on a des espoirs qui sont capables d'être dans ce groupe pour aller à l'Euro. Donc je crois qu'il ne faut pas avoir peur de dire qu'on est ou qu'on fait partie des favoris pour gagner le prochain Euro.
Et pour remporter cet Euro, Didier Deschamps compte sur la jeunesse, notamment Warren Zaïre-Emery, et pourrait même appeler son coéquipier du PSG, Bradley Barcola. La liste sera transmise à TF1 sur une clé USB en fin de journée avant l'annonce officielle vers 20h30.
Merci Cyril de la Morinerie pour toutes ces précisions. 13h15.